Ce texte, il fait suite à la description de l'armure du chrétien. En quelque sorte, il est dans la continuité, c'est la continuité de la même phrase de l'apôtre Paul. Le fait que le chrétien porte une armure, eh bien, fait de lui un combattant. Et la vie chrétienne nous a engagés dans une lutte, dans un combat, dans une bataille. Dans les conflits armés, un des éléments essentiels au combat est la radio. Durant la dernière guerre mondiale, les opérateurs radio ont été chassés par les Allemands, au point que 72% d'entre eux, malgré le fait qu'ils ne restaient pas plus de 3 jours dans le même lieu, qu'ils n'envoyaient pas plus de 3 minutes de message, et qu'ils n'étaient pas plus de 3 mois opérateurs, ont été attrapés. 72% ont été attrapés, et la moitié d'entre eux a été exécutée. C'est-à-dire que le poste de radio qui met les combattants en lien avec leur général, c'est la bataille. Et ce n'est pas étonnant que le chrétien connaisse ici-bas des luttes dans la prière, et des luttes simplement pour prier et pour s'approcher de Dieu. À l'époque romaine, l'apôtre Paul n'avait pas cette image de la radio, mais les légionnaires avaient dans leur paquetage des petites tablettes de bois creusées liées par deux liens en cuir et garnies à l'intérieur de cire d'abeille avec lesquelles ils pouvaient écrire des messages. Ils avaient un petit stylet qui allait dans le paquetage et puis ils fermaient la tablette, ils envoyaient le message à leur général qui renvoyait l'information, etc. Donc c'était leur moyen de communiquer. La radio, elle nous met en contact avec, en contact les forces sur le terrain avec le commandement. Avec la radio, on peut demander d'être soutenu, on peut demander d'être encouragé, on peut demander d'être ravitaillé, d'être aidé, d'être dirigé. La prière nous met en lien direct, en relation avec notre grand général. Il est particulièrement facile pour des chrétiens qui vivent dans une société libre comme la nôtre, et particulièrement prospère, de se sentir sûr d'eux-mêmes, au point que on n'ait plus vraiment besoin de prier. C'est-à-dire qu'on a un compte en banque, on a un job. Si jamais on perd notre job, on a les acédiques. Et puis, si on tombe malade, on a la sécu. Et finalement, on n'est plus tellement porté à plaider devant notre Seigneur. Il est facile d'être tellement satisfait des bénédictions matérielles qu'on en perd même le désir des bénédictions spirituelles. Un ménage heureux, par exemple, avec des enfants obéissants, l'appartenance à une église qui grandit, tout cela peut nous rendre suffisants, nous laisser être contents de nous-mêmes et ainsi dire ne plus avoir besoin de Dieu, ne plus avoir à chercher sa face, à s'attendre à lui, ne plus avoir de désir passionné de Dieu ni de son secours. La liste des bénédictions spirituelles qui nous sont données et présentées dans le livre aux Éphésiens est tellement vaste, tellement riche, que Satan essaie de porter toute notre attention sur ces bénédictions pour finir par oublier celui qui bénit, notre Dieu lui-même. Et c'est à cause de ce danger si grand et à la fois si commun que l'apôtre Paul termine son épître par un appel urgent à la prière. Il dit « Faites-en tout temps, toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, ce ne sont que des impératifs. » Et pour que nous répondions à cet appel, je voudrais répondre à trois questions ce matin. D'abord, pourquoi prier? Ensuite, comment prier? Et enfin, que prier? Voyons tout d'abord, pourquoi prier? Pourquoi prier? Eh bien, tout d'abord, parce que le verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Parce que le champ de bataille, il est dans les lieux célestes et qu'aucune arme n'a de puissance ici-bas, sauf dans les lieux célestes. Notre ennemi est spirituel et on ne peut pas lutter contre cet ennemi autrement que par la prière, par un moyen spirituel. Cette semaine, j'ai vu une petite vidéo affligeante dans une réunion. Il y avait un gourou, je ne peux pas appeler ça autrement qu'un gourou, c'est pas un prédicateur de l'évangile ou un pasteur, qui s'approche d'une femme, elle est assise sur une chaise, et puis elle a certainement réclamé la prière, je ne comprends pas les paroles, mais l'homme, le prédicateur, il met le pied sur elle, sur son ventre, comme ça, et puis il appuie dessus, et puis il hurle tout ce qu'il peut, et puis il écrase cette pauvre femme avec son pied, et puis les autres viennent le soutenir pour qu'il puisse encore appuyer, et puis continue à hurler. Waouh! C'est l'anti-prière. Notez ça, c'est l'anti-prière. La prière ne ressemble à rien de cela. D'accord? À rien de cela. On doit écraser avec son pied et hurler? Non, jamais de la vie. Jamais nous avons vu Jésus faire quelque chose comme cela. Jamais une gymnastique comme celle-là. Jamais on ne l'entend hurler et pourtant il a mené une bataille dans la prière infiniment plus grande que toutes celles que nous pourrions être amenés à mener réunies. La prière, c'est précisément se porter sur un autre terrain que celui de la chair et du sang. Un autre terrain que celui de la vue. Un autre terrain que celui des décibels. Dans les lieux célestes, par la prière. Pourquoi la prière? Mais parce que nous en avons besoin. La prière n'est pas pour informer Dieu. On a lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8. « Car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc ce n'est pas pour l'informer. Non, la prière, c'est l'expression de notre confiance en Dieu. Et ça, c'est une terrible manière d'évaluer notre vie de prière, notre confiance, notre foi dans le Seigneur. Est-ce que nous prions? Mais non seulement c'est l'expression de notre confiance, mais c'est aussi le moyen par lequel notre confiance en Dieu peut augmenter. Dans la prière, nous plaçons le caractère de Dieu devant nos yeux. Nous rappelons à nos propres cœurs la fidélité de Dieu à ses promesses. Nous nous souvenons de sa puissance infinie. Nous nous souvenons de sa souveraineté sur toutes choses. Nous nous souvenons de sa bonté, de sa miséricorde, de sa compassion pour nous. Et nous avons besoin de cela. Dans la prière, nous entrons en communion avec notre général. Il nous rassure, il nous console, il nous secourt et puis il nous délivre. Et puis enfin, pourquoi prier? Mais parce que Dieu veut nous engager dans une activité qui a une portée éternelle. Dieu a choisi dans sa sagesse infinie de faire avancer l'œuvre de son royaume en répondant à nos prières. De sorte que nous devenons participants de l'œuvre de Dieu. Nous devenons co-ouvriers avec Christ. Et pourquoi est-ce que nous devrions prier? Mais parce que Dieu répond à la prière. Parce qu'il a choisi de faire avancer son royaume en répondant à nos prières. Rendez compte? C'est merveilleux. Pourquoi prier? Mais parce que Dieu répond à la prière. Et puis alors maintenant, comment prier? Comment prier? Mais Paul dit ici, prier en tout temps. En tout temps. En tout temps parce que l'ennemi n'a pas de répit dans le combat. Prier dans la victoire et prier dans la défaite. Prier, quels que soient les jours de joie ou de tristesse, prier. Le diable prépare toujours une occasion de nous faire tomber. Dans la victoire et les jours heureux, l'orgueil et la suffisance peuvent nous faire tomber, nous atteindre, nous guettent. En 1 Corinthiens 10, verset 12, Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comment prendre garde ? Prions. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prions. Et puis dans l'épreuve, dans l'adversité, le découragement et l'abandon nous menacent. Alors prions. Prier en tout temps, ça nous pousse à faire toutes sortes de prières et de supplications. Il y a des temps pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Un temps pour le louer. Il y a un temps pour intercéder. Un temps pour confesser nos fautes et revenir dans sa présence. Un temps pour le supplier. Paul nous commande de prier tout le temps, en tout lieu. Il dit ça au chapitre 1, en 1 Timothée 2, 8. Il nous dit de prier sans cesse, en 1 Thessaloniciens 5, 17. Il y a un moment, il n'y a pas un moment où nous n'avons pas besoin de prière, ni aucun moment où Dieu n'entend pas nos prières. Paul assure Timothée, son bien-aimé, fils dans le Seigneur, qu'il prie pour lui nuit et jour. Ça ne signifie pas prier sans cesse, prier en tout temps. Ça ne signifie pas que nous devrions être continuellement dans une attitude de prière sur nos genoux, les yeux fermés et les mains en l'air. Non. Jésus n'a pas fait cela. Ça ne signifie pas réciter mécaniquement des prières et dire « Croyez pas que vous allez être exaucé à force de prière, de saouler Dieu, si je peux dire. » Non. Prier en tout temps, c'est vivre continuellement dans une conscience de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes tentés, nous demandons son secours. Lorsque nous sommes tombés, nous implorons son pardon. Lorsque nous doutons, goûtons quelque chose de beau, quelque chose de bon, nous le remercions. Lorsque nous voyons le mal, nous demandons à Dieu de le corriger. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, nous lui demandons de l'attirer à lui et de nous utiliser pour rendre fidèlement témoignage de lui. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous nous tournons vers lui pour qu'il nous délivre. En d'autres termes, notre vie devient une communication perpétuelle avec Dieu. L'opérateur radio, il ne parle pas sans cesse à la radio. Mais il garde constamment sa radio connectée avec son général. Il peut à chaque instant recevoir un ordre ou faire connaître un besoin à son commandant. C'est une des ruses du diable dans notre société. Il fait tout pour nous distraire, pour occuper nos pensées, et de sorte qu'on ne reste pas en communion, en communication, connecté, c'est ça le terme aujourd'hui, avec notre Seigneur. On est connecté avec plein d'autres choses. Nos téléphones, nos smartphones, là, on peut être connecté en permanence. Et regardez comment est-ce que l'on vit simplement à table et en voiture, alors que c'est interdit, et dans les transports en commun, on est tout le temps connecté avec tout le reste du monde, mais pas avec la personne qui est assise à côté de nous et pas avec Dieu. Je vous mets au défi ce matin. La prochaine fois que vous prenez votre voiture, tout seul, la prochaine fois que vous êtes dans les transports en commun tout seul, résistez! Je vous défie, résistez à la tentation de vous connecter avec tout le monde, sauf avec Dieu. Prenez le temps, ce temps-là, pour prier Dieu pour prier Dieu pour simplement le fait d'être là, d'être vivant et de pouvoir jouir de sa grâce. Priez pour votre entourage, priez pour les gens que vous allez rencontrer, priez pour vos frères et sœurs, plutôt que d'être connecté et regarder des vidéos stupides. Comment prier? Prier par l'Esprit, dit-il. Ce n'est pas d'une manière spectaculaire, ce n'est pas une manière mystique ou en parlant en langue. Non, Jésus n'a jamais eu cette manière de s'adresser à son Père, et pourtant, nul mieux que lui n'a été constamment rempli du Saint-Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier au nom de Christ, c'est-à-dire prier en accord avec Christ, en accord avec sa nature et avec sa volonté. C'est accorder nos pensées aux pensées du Seigneur, accorder nos désirs aux désirs du Seigneur, à sa volonté. D'où l'impératif du chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Et on peut être rempli de l'Esprit en louant constamment Dieu par nos chants, en lui exprimant nos actions de grâce, en le remerciant jour après jour et en étant soumis mutuellement les uns aux autres. Enfin, comment prier? Mais prier avec persévérance. Prier jusqu'à ce que vous ayez obtenu votre exaucement. La conquête de Canaan est une illustration de la vie chrétienne. Il y a des ennemis, il y a des tentations, il y a toutes sortes de batailles à mener. Toutes les batailles ne sont pas remportées comme celle de Jéricho où Dieu seul a combattu, il a fait écrouler les murs et tout était gagné. Toutes les autres batailles ont été gagnées jour après jour, pied après pied, et en marchant sur ce terrain, gagnant le pays. La plupart des chrétiens ne prennent pas la prière au sérieux jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose dans leur vie, ou qu'il arrive quelque chose dans la vie de l'un de leurs proches. Alors, ils prient intensément. Ils prient avec précision, ils prient avec persistance. Mais c'est de cette manière, c'est de cette façon que les chrétiens devraient toujours prier. Si nous sommes sensibles aux besoins des autres, nous sommes poussés à prier pour eux jour et nuit. Comme l'a fait l'apôtre Paul pour Timothée. Ou comme Jacob qui dit à l'ange de l'Éternel, « Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. » Ou encore comme Anne, la mère de Samuel, qui demandait un fils à l'Éternel et qui restait longtemps en prière, répandant son âme devant l'Éternel. Ou comme cette veuve qui venait chaque jour plaider sa cause devant le juge, en Luc chapitre 18. Ou comme encore notre Seigneur Jésus qui consacrait aussi beaucoup de temps à la prière. Il nous a dit que de grandes foules le suivaient, mais qu'il serait retiré souvent dans les lieux déserts pour prier. C'est moi qui ajoute souvent, mais le texte, le verbe grec laisse entendre cette permanence, cette habitude que Jésus avait de se retirer dans des lieux déserts pour prier. Prier avec persévérance, c'est remettre les sujets qui pèsent sur nos cœurs jour après jour, jour après jour. Certains sujets nécessitent d'être répétés, priés plusieurs fois. Je pense à l'apôtre Paul qui avait cette écharpe dans la chair et qui est allé plaider plusieurs fois devant le Seigneur. Il est dit que trois fois, il a plaidé devant le Seigneur pour être délivré. Je pense au Seigneur Jésus qui, dans le jardin de Gethsémané, a dit « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et puis il vint vers ses disciples, il les trouva endormis. Il leur a dit « Priez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et puis il s'éloigna de nouveau Et il fit la même prière. Il est allé plusieurs fois devant le Seigneur et plaidé. Il y a des sujets qui pèsent tellement sur nos cœurs qu'on ne peut pas laisser les sujets juste. Ça fait des mois que l'on prie pour ces histoires de bâtiments. Ça fait des mois que l'on prie pour certains couples. Ça fait des mois que l'on supplie le Seigneur que des vies soient changées par la puissance de l'Évangile. Mais c'est tous les jours. Quand le sujet est sur nos cœurs, il presse tellement que vous ne pouvez pas ne pas vous décharger jour après jour, jour après jour. Heure après heure, parfois. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez. Présentez vos sujets plusieurs fois par jour si c'est nécessaire. Priez sans cesse. Persévérez dans la prière. Jésus dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors que prier ? Paul dit ici, priez pour tous les saints. Waouh ! Vous voulez un sujet ? En voilà un. Priez pour tous les saints. On travaille sur l'annuaire de l'Église, nouvelle mouture. Vous allez pouvoir prendre l'annuaire et prier pour tous les saints de l'EBTM. Après, vous pouvez prier pour les autres saints de Toulouse, et puis de la France, et puis du monde entier. Waouh ! Ça devrait nous occuper un moment, et on comprend l'injonction, prier en tout temps. Si nous ne savons pas que prier, c'est peut-être qu'il y a un problème d'élargissement de notre cœur. On a besoin d'élargir nos cœurs aux besoins des autres. Pour qu'on puisse aussi prier pour tous les saints, mais prier avec persévérance pour eux, avec précision et insistance pour tous les saints. Voilà pourquoi il y a une feuille qui vous est remise chaque mardi avec les sujets de prière. Voilà pourquoi on partage en plus d'autres sujets, pour que les uns et les autres, on puisse s'appliquer à prier pour tous les saints. Faites des listes, nommez les gens pour lesquels vous priez. Je pense à l'apôtre Paul en Éphésiens, quand il prie au chapitre 1, au verset 16, il dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention. » Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà ce que nous pourrions prier les uns pour les autres. Ou encore au chapitre 3 et au verset 14, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh ! Voilà ce que l'on peut prier. Vous voulez savoir ce que vous devez prier pour vos frères et sœurs, pour tous les saints ? Priez ces prières, apprenez-les par cœur. Méditez-les et formulez ce genre de prières pour vos frères et sœurs. Oh, il n'est pas mal de prier pour nous-mêmes, hein? Pas plus qu'il est mal de prier pour des choses matérielles, pour des besoins physiques. Mais tout comme la Bible, Elle nous appelle à prier pour les besoins spirituels des autres, plutôt de prier pour les besoins spirituels plutôt que pour les besoins physiques. Elle nous appelle aussi à prier pour les autres plutôt que pour nous-mêmes. La grande chose que nous puissions faire pour un autre croyant, ou qu'il puisse faire pour nous, c'est de prier. Celui qui est spirituellement en santé se voue au bien des autres, surtout de ses frères et de ses sœurs dans la foi. Par contre, la racine de la maladie psychologique et spirituelle, c'est l'obsession de soi. Vous voulez être malheureux ? Vous voulez être déprimé ? Pensez à vous. Pensez à vous. Pensez à vos besoins spirituels. John MacArthur a écrit : ironiquement, le croyant qui est consumé par ses propres problèmes, même ses problèmes spirituels, à l'exclusion de ceux des autres, souffre d'un égocentrisme destructeur, qui est non seulement la cause de ses problèmes, mais aussi l'obstacle à leur solution. Habituellement, un tel égoïsme le sépare des autres croyants, qui, s'ils avaient une communion intime avec lui, prieraient régulièrement pour son bien-être spirituel. Waouh ! Je trouve ça terrible. Voilà pourquoi Paul nous commande : priez pour tous les saints. Oubliez-vous et priez pour tous les saints. Quand vous allez prier pour tous les autres saints vont prier pour vos besoins, vont prendre vos besoins à cœur. Et c'est comme cela qu'on vit l'Évangile, qu'on vit l'Église. Quand Paul dit « priez pour tous les saints », est-ce qu'il blague ? Est-ce qu'il blague ? Non, il est en train de dire « pensez aux autres, préoccupez-vous des autres ». Aux Philippiens, il leur écrit « que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres ». Alors, lisez les lettres de nouvelles des missionnaires. Intéressez-vous aux autres. Fréquentez les réunions de prière. Pensez à vos frères qui sont mis à mort à cause de leur foi. Pensez à leurs épouses et à leurs enfants. Et vous allez savoir pourquoi prier. En Hébreux, chapitre 13, verset 3, il est dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. » C'est-à-dire, Paul, il dit... L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Mettez-vous à leur place. Imaginez-vous dans cette situation. Pensez à la famille de ces gens qui sont emprisonnés, à leurs enfants. Vous savez, quand on commence à réfléchir à cela, quand on commence à élargir nos cœurs, à lire les nouvelles missionnaires, à s'intéresser à nos frères et sœurs, à voir ce qu'ils traversent, alors on ne manque jamais de sujets de prière. Et on sait combien Dieu seul peut satisfaire leurs besoins spirituels. Dieu seul peut changer leur regard sur leur situation. Dieu seul peut leur venir en aide, véritablement. Et c'est pour ça que l'on va prier Dieu. Paul prend le soin ici, non pas de faire connaître ses besoins, mais il dit « Je vais vous envoyer une lettre humaine, une lettre vivante ». Verset 21, « Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé, c'est celui qui va porter la lettre aux Éphésiens. Le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Waouh ! C'est ça, la lettre de nouvelles qui va leur parvenir. C'est Tychique qui leur apportera ces nouvelles. Et puis, priez pour que l'Évangile se répande. Ça, c'est notre prière. Priez pour tous les saints et priez pour que l'Évangile se répande. Alors même qu'il est en train d'écrire cette lettre, Paul est en prison. Et il ne demande pas qu'on prie pour son bien-être matériel ou pour sa santé physique, mais pour qu'il garde le courage et la fidélité nécessaires à la proclamation de l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Pensez à nos frères, à nos sœurs en pays musulmans aujourd'hui. Ils peuvent être tentés de ne pas partager leur foi par peur de représailles. Ils peuvent être tentés de rester évasifs sur la divinité de Jésus-Christ pour éviter les persécutions. Ils peuvent être tentés de se conformer à leur monde en pratiquant Ramadan plutôt qu'en affirmant qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres mais seulement par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Paul, il sait qu'il a besoin d'être fortifié dans sa foi pour pouvoir annoncer l'Évangile avec assurance, avec hardiesse, avec cette liberté que donne l'Esprit. Priez pour que l'Évangile se répande et se répande partout. Dans l'épître suivante, Philippiens chapitre 1, verset 12, il est dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Et là, on voit que la prière a été exaucée. Les frères ont prié pour Paul et Paul a eu de la hardiesse. Il a pu prêcher l'Évangile à tout le prétoire. Tout le monde connaît. Même certains de la famille de César se sont donnés à Christ. Il est tellement hardi pour prêcher l'Évangile que ceux qui sont en dehors de la prison trouvent eux-mêmes un puissant encouragement pour le faire dans la ville de Rome. Les prières ont été exaucées. Paul a témoigné à tout le prétoire. Les frères sont encouragés par son témoignage. De sorte qu'ils sont eux-mêmes remplis de zèle pour annoncer l'Évangile. Voilà. Voilà ce que nous devons prier. Prier pour que l'Évangile se répande. L'œuvre dans laquelle le Seigneur nous a engagés, c'est la proclamation de sa gloire révélée par l'Évangile. Et cette œuvre, elle est spirituelle. Elle est faite en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Elle nécessite la persévérance et un cœur élargi pour tous les saints. Elle vise la proclamation de l'Évangile. Je termine avec cette illustration. À bord du Titanic, les opérateurs radio se sont succédés, ils étaient deux. Et au moment où le bateau a frappé l'iceberg, le deuxième est venu au poste, il était en train de se reposer, il est venu au poste radio. Et puis ils ont fait leur travail. Avant d'avoir frappé l'iceberg, ils avaient reçu des messages radio comme quoi il y avait des icebergs énormes dans ce coin-là. Et fidèlement, ils avaient transmis l'information au poste de commande, qui n'en a pas tenu compte. Lorsque le navire a heurté l'iceberg, ils ont lancé des messages de détresse, avec persévérance, donnant la position du navire, expliquant la situation tragique que les canots étaient mis à la mer, que le navire allait sombrer. Ils ont lancé des SOS. Le rapport d'expertise fait état que le navire a sombré à 2h20 du matin jusqu'à 2h17. Les opérateurs radio ont lancé les messages d'SOS. Et ils l'auraient fait encore, mais il n'y avait plus d'électricité dans la cabine. C'est parce qu'ils ont lancé ces messages d'SOS que des bateaux sont venus secourir les naufragés. Sinon, c'était toute la population à bord qui serait morte. C'est quoi notre ministère? Quel est l'appel qui nous est lancé par Paul ici? Et de prier. D'être ces opérateurs radio. D'être ces intercesseurs. De plaider la cause de nos frères. De faire avancer l'évangile dans ce monde par nos prières. L'un d'eux a péri dans le naufrage. Il était épuisé par toute la journée à son poste de commande et puis toute la nuit qui avait suivi. Il est tombé à l'eau lui-même et il a pu monter à bord, mais il est mort de froid. Il est mort pour sauver d'autres. Jésus-Christ, lui, est l'intercesseur suprême. C'est lui qui s'est placé entre le Père et les hommes pécheurs. C'est lui qui a intercédé en notre faveur. Et c'est lui qui a livré sa vie en sacrifice pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Ce sont ses prières à lui. C'est son œuvre à lui qui nous sauve. Et il nous appelle, nous aussi, à prendre une telle part dans son œuvre. Oh, si vous n'avez jamais entendu l'appel de Dieu dans vos cœurs à vous tourner vers lui, ou si ce matin vous pensiez, oh Seigneur, je réalise que ma propre vie est en train de faire naufrage, mais j'ai besoin de toi, sauve-moi. Commencez ce ministère d'intercesseur et plaidez votre cause devant Dieu. Dites-lui tout ce que vous êtes. Et puis placez votre confiance en Jésus-Christ mort pour vous. Demandez-lui de vous pardonner. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il le fait systématiquement. Il est venu pour nous sauver. Son œuvre a été parfaite. Elle a accompli un salut parfait pour chacun d'entre nous.